Le clivage, c'est bon, tout le monde
oui,
filme tout. En direct, les films, les courts-métrages, du spectacle. Wow.
9h40, soyez les bienvenus dans l'instant.
Parce que le lapin, c'est exactement Charlie Chaplin.
Croix, une presse indépendante.
Information numérique. Exciting.
Le nez sur l'écran internet. Mm-hmm.
Souvenez-vous, l'été dernier, Gaza, l'Ukraine, l'avion de la Malaysia Airlines, Ebola à son pic, les élections turques et afghanes qui dérapent, une actu spectaculaire. Et cette année, alors, impression presque feutrée. Le vacarme du monde en guerre n'en est pas moins virulent. Seulement, les journalistes ne peuvent plus y aller, ne peuvent plus tourner. Martine Laroche-Joubert, Dorothée Oliéric, bonjour,
bonjour
à toutes les deux.
Bonjour.
Deux grands noms du service étranger de France 2, Martine, la Syrie, cette saison, la Chine. Cet été, Dorothée, en août, seule journaliste étrangère dans un Yémen ravagé.
Tous les médias sont sur France Inter avec Sonia De Villers.
Ah oui, c'est vraiment tous les médias parce que là, c'est la SDF qui s'invite à bord. En bref, et dans l'actu du matin, on retiendra cette info des Échos. Le débat sur notre redevance à 136 euros, c'est reparti. Et le quotidien de s'offrir un détour édifiant par l'audiovisuel allemand. Les chaînes publiques, figurez-vous, croulent sous l'argent. 7 milliards d'euros pour financer 22 canaux de télé et 67 radios. Le gouvernement vient même de baisser la redevance qui était en surplus hein, à 17,50 euros par mois. C'est la plus élevée d'Europe. C'est chaque lieu de résidence qui paye en Allemagne, téléviseur ou pas, internet et dans toutes les maisons et les programmes avec. Ouh là là, qu'est-ce qu'on aime Borgen, la série danoise dont Arte annonce coproduire la suite. C'est une bonne nouvelle. Par ailleurs, Véronique Kella, qui est la patronne de la chaîne franco-allemande, repart à la charge contre les géants du web. Facebook, Google, Twitter ou encore Netflix, avec même un petit clin d'œil à Canal+. Ils deviennent les portes d'entrée vers l'info, le reportage, les films et les séries. Ce faisant, ils vous enferment dans leur système de recommandations qui ne sont autres que des algorithmes. Arte rappelle qu'une chaîne, ce sont des choix éditoriaux, innovants, pensés et même risqués. Donc, pas la prime au goût des plus nombreux. C'est pas Radio France qu'on vous dira le contraire. Voilà, mes invités ce matin dans l'Instant M sont Martine Laroche-Joubert, à peine débarquée de l'avion, Martine. Vous avez atterri à Charles de Gaulle ce matin.
Et à 5h50.
Voilà, et vous luttez contre le sommeil. Comptez sur moi pour vous tenir éveillée, Dorothée Oliéric. Vos bureaux se font quasiment face, hein, c'est ça la
tout
rédaction de France
comme
2.
Ici.
Voilà, vos visages qui sont tantôt casqués, tantôt voilés, sont connus de tous les téléspectateurs. Je rappelle d'ailleurs que l'Instant M est une émission filmée, que vous pouvez la suivre en vidéo sur franceinter.fr, que mes invités ne sont ni casqués ni voilés ce matin. Tout va bien. Les téléspectateurs vous ont suivi dans les endroits les plus risqués du monde. Bilan d'un été brûlant avec bien peu d'images à la clé. C'est de ce risque justement qu'on va parler.
L'Instant M, M comme média sur France Inter.
Ici, c'est la guerre. À Aden, où nous nous trouvons, nous voyons des kilomètres de désolation, des immeubles éventrés par les obus de mortiers et les roquettes et des infrastructures extrêmement endommagés. Depuis le début de l'année, les miliciens chiites, houthis, affrontent la résistance sunnite, une guerre civile où un camp est soutenu par l'Iran et l'autre par l'Arabie Saoudite. Riyad a d'ailleurs constitué une coalition de 9 pays arabes qui bombardent aujourd'hui les positions pour stopper ces miliciens chiites.
Ici, c'est la guerre, hein, c'est le début de ce qu'on vous entend dire, Dorothée Oliéric, à l'antenne. Ce reportage ne pouvait pas passer inaperçu cet été. Il nous explosait au visage. Marie-Christine Thomas, notre réalisatrice, faisait remarquer à quel point vous aviez le visage tendu, la voix même extrêmement tendue. Derrière vous, c'est littéralement le chaos.
On va jamais sereinement dans un pays comme ça. Surtout, il y a quasiment aucun journaliste. Il y avait une journaliste irlandaise quand j'y étais, et je pense qu'il y avait donc
on était à deux jours de la libération de la dernière otage française.
Nous sommes arrivés, par hasard, le jour de la libération de la française. On était à Djibouti, on a appris dans la nuit qu'elle était libérée. Mm-hmm. On est arrivé le lendemain donc à Aden. Elle avait déjà quitté le pays, mais ce qui m'a permis d'être en direct pour France 2, en faux direct, à 13h et à 20h pour commenter un peu les conditions de la libération. Et surtout le pays qu'elle venait de quitter. Et c'est absolument terrifiant. Hein. Il y a d'abord des dizaines de milliers de morts. Le pays est dévasté. Et surtout, il y a tous les ingrédients de la terreur. Il y a Al-Qaïda, il y a l'État islamique. Il y a, effectivement, j'ai dit, les miliciens chiites, les miliciens sunnites, partout. Et ça peut partir vraiment dans tous les sens. Le risque est très important. En plus du risque de guerre, parce qu'il y a des bombardements, il y a beaucoup de mines en ville, donc c'est effectivement un pays extrêmement dangereux, d'ailleurs qui est vraiment en rouge vif sur les papiers du ministère des Affaires étrangères, qui n'ont pas manqué d'ailleurs d'envoyer un courrier à France 2, à mes chefs, quand ils ont su que j'étais là-bas, pour leur dire surtout, faites la rentrée,
qu'elle ne reste pas.
Non, j'étais déjà sur place. Donc.
Mais vous êtes rentrée. Vous
avez rentrée quand j'ai fini ma mission.
Voilà, vous avez accompagné également des médecins.
Tout à fait. C'était d'ailleurs le seul moyen pour moi de rentrer au Yémen parce qu'ils donnent pas de visa. Et même une fois qu'on est sur place, on se fait très très discret. On a une toute petite caméra, vraiment un petit caméscope. Pas de matériel, on n'est pas de gilet pare-balles pour pas être identifié comme journaliste. Donc il y a des risques, mais il y a aussi une présence un peu plus discrète. On se fond, on suit les médecins. Et j'ai envie de dire, ça passe, mais on n'est pas resté très longtemps et il était dangereux de rester plus longtemps que ça.
Martine Laroche-Joubert, un bref bilan aussi de cet été. Vous étiez à Pékin, vous étiez donc la correspondante de France 2 à Pékin. Comme dirait votre consoeur Dorothée Oliric, vous avez quand même réussi à vous trouver une petite explosion pour l'été.
Une grosse même.
Une grosse. Voilà, donc vous étiez la première sur les lieux à Tianjin.
Oui, je suis arrivée très 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 tôt le matin. Et c'est intéressant cette explosion parce que elle montre le degré de corruption, les passe-droits qui existent en Chine. Il est normalement interdit de construire des immeubles d'habitation à moins d'un kilomètre d'un endroit où il y a des produits chimiques dangereux. Mais ça, par un système de passe-droits, etc., les gens là-bas, enfin les gens importants, font exactement ce qu'ils veulent. Et une fois sur place, j'ai pu m'approcher assez près, environ à 100-200 mètres du lieu de l'explosion. Mais il était très difficile de savoir quels étaient les produits chimiques qui étaient entreposés là. Parce que le gouvernement, l'État, les autorités nous disaient que rien. Que c'était des produits chimiques qui n'étaient absolument pas dangereux, qu'il y avait eu un incendie, qu'on ne savait pas trop quoi, etc. Et ce qu'il y a eu d'intéressant dans cette histoire, c'est que ce sont des journalistes chinois qui, les premiers, ont sorti les informations. Il y a eu un journaliste chinois qui a réussi à interviewer un pompier, rescapé donc, et qui était allé chercher de l'eau pour ses compagnons. Et c'est comme ça qu'on a su qu'en réalité, ces pompiers n'avaient pas la formation nécessaire pour éteindre un incendie avec des produits chimiques, et qu'ils avaient versé de l'eau, ce qui avait encore aggravé la situation. Alors, il a fait sortir cette info, et l'info, très vite, a disparu. Elle a disparu de l'internet chinois, elle a disparu de partout. Et c'est comme ça en Chine, parce que la censure, le poids de la censure est extrêmement fort. Par exemple, c'est aussi un journaliste chinois qui a sorti le fait qu'il y avait 700 tonnes de produits chimiques de cyanure de sodium. Bon, les autorités ont démenti, bien entendu. Le site, tout a été effacé. Et puis finalement, les autorités ont dû dire que c'était vrai. Donc c'était intéressant de voir ça, parce qu'à la fois, il fallait repérer ce qui était fiable ou pas dans les infos qu'on nous donnait. Les autorités, ce qu'elles disaient, n'était pas fiable. Les journalistes, il fallait aussi faire attention. Il fallait se fier, en effet, à des journalistes qu'on pouvait connaître, etc., qui étaient crédibles. Donc, c'était vraiment intéressant.
C'est ça, c'est les deux poids de l'été sur la circulation de l'information, sur la liberté de l'information. C'est le risque majeur que prennent les journalistes à entrer dans ces zones de guerre dont vous nous parlez, Dorothée Oliric. Et puis, c'est la censure, la mainmise sur la circulation de l'information dans ces pays, dont la Chine. Je l'ai dit tout à l'heure en introduction, Martine Laroche-Joubert, vous avez passé ces dernières années à tourner autour du conflit syrien. Et quand je dis tourner autour, là aussi, ça pose la question de pénétrer dans les zones mêmes où ça brûle.
Une voiture et une mobylette piégée font un carnage dans la ville de Hasaké. 47 morts et 140 blessés. Attentat revendiqué par Daesh. Nous filmons des enfants très gravement touchés. Des blessures de guerre. Manque de moyens dans les hôpitaux. Manque de moyens sur la ligne de front. Les Kurdes se battent avec des kalachnikovs, des armes légères. Face à eux, le groupe État islamique aligne des armes lourdes, tanks, mortiers. Et là où ils passent, il ne reste plus rien. Une sale guerre, où rien ni personne n'est épargné. Un pays ravagé, où combattants et combattantes se battent presque à main nue contre un ennemi surarmé. Et impitoyable.
Vous êtes au Kurdistan, hein, Martine Laroche-Joubert. C'est un reportage très récent, il date du printemps. Alors voilà, c'était la première question que je voulais vous poser à toutes les deux. L'avalanche d'informations absolument effroyables venues du Moyen-Orient, et notamment tout ce qui concerne l'État islamique, nous donne à voir une forme de chaos totalement terrifiant. Est-ce que pour vous, c'est la zone la plus dangereuse du monde, pour vous journaliste, reporter, pour exercer votre métier? Est-ce qu'il y a une hiérarchie? Est-ce qu'il y a une échelle dans les risques de votre métier? Est-ce que vous le placeriez tout en haut?
La Syrie,
Martine Laroche-Joubert.
Oui, moi, je le place tout en haut. Moi, je suis allée plusieurs fois en Syrie. J'y vais toujours clandestinement, en passant par la frontière turque, c'est-à-dire en franchissant des barbelés, en courant, etc. Bon, c'est un pays extrêmement dangereux parce que on ne peut plus, par exemple, j'avais l'habitude d'aller à Alep. On ne peut plus y aller, c'est trop dangereux. Les risques de kidnapping par l'État islamique sont trop grands. Donc là, j'y vais souvent avec les Kurdes. Et c'est pas si facile d'y aller avec les Kurdes parce qu'ils font partie du PKK, une organisation qui est classée terroriste par la France, par l'Union européenne, par les États-Unis. Et pourtant, ils sont les seuls à se battre au sol contre l'État islamique. Donc, c'est une situation qui est très perturbante, très dangereuse. Les Kurdes ont un courage absolument insensé. Souvent, les gens de l'État islamique, ils sont quoi? Ils sont à 100 mètres, ils sont à 200 mètres, ils sont vraiment tout près de nous. En Syrie, personne n'aide les Kurdes. La France aide les Kurdes de Turquie, mais pas les Kurdes de Syrie. Enfin, tout ça, ça crée un chaos total dans lequel, pour nous, c'est très, très, très
difficile de travailler. Ouais. Je pense qu'on est monté d'un cran dans le risque avec l'État islamique. C'est-à-dire qu'avant, il y avait les risques de kidnapping avec Al-Qaïda, qui était déjà extrêmement pesant sur notre façon de travailler. Maintenant, donc, il y a le risque de kidnapping, plus le risque d'être décapité quand même dans les 48 heures. Ça, il n'y avait pas avant.
Alors, donc, je rappelle, à chaque fois qu'on y va, la vidéo choc de James Foley, votre confrère américain décapité.
Et toutes celles qui ont suivi. Au Yémen, je suis allée tourner et j'ai vérifié l'endroit où les personnes que je ne peux pas nommer devaient m'emmener. Et en fait, on a checké. Il se trouve que c'était juste en face de la nouvelle base d'un hôtel qui avait été pris par l'État islamique. Et je l'ai su grâce à un check sécurité de MSF avec qui j'étais. Sinon, j'allais y aller.
Alors, il y a une enquête choc de l'une de vos consoeurs, du New York Times, parue mi-août, l'enquête de Rukmini Kalimachi sur la théologie du viol au cœur de l'État islamique. Un papier très long, un papier absolument glaçant. Il a été repris partout en Europe. On en a beaucoup parlé en France en cette fin d'été. J'ai trouvé une traduction plutôt fidèle sur le site de la RTBF et je vous la poste sur Twitter et sur le site de l'Instant M pour tous ceux qui parlent pas anglais et qui voudraient le lire. C'est un papier qui est fait d'analyse et de témoignages. Ça pose évidemment la question d'aller sur le terrain. Ça pose aussi la question du viol, du risque du viol en temps de guerre. Martine Laroche-Joubert.
Il y a toujours eu un risque de viol en temps de guerre. Hein. Ça ne date pas de l'État islamique. Hein. Moi, je me souviens qu'en Yougoslavie aussi, il y avait eu des viols terribles. Il y a eu des viols aussi au Rwanda. Il y en a eu en Afrique. Il y en a eu au Zaïre. Le viol, malheureusement, c'est une arme de guerre.
Et c'est une arme de guerre mieux médiatisée et plus médiatisée qu'avant.
Ah, certainement. Oui. Mm-hmm. De toutes les façons, ce qu'il y a maintenant, c'est que on sait les choses, on sait pas tout très vite, mais on sait quand même beaucoup de choses assez vite. Donc forcément, on en parle plus.
Et maintenant, c'est institutionnalisé, vraiment. C'est-à-dire que là, l'État islamique, les mariages forcés, on appelle ça... Voilà, mais ce sont des viols, effectivement. Avant, c'était inhérent au conflit, mais c'était peut-être pas aussi institutionnalisé.
Est-ce que, selon vous, ça repose la question de la femme, journaliste, reporter de guerre, comme plus vulnérable, justement, qu'un homme, dans ces conditions? Il est même question de doter les journalistes femmes d'un kit. J'ai entendu dire, et que ça fait... fait et que ça fait débat de partir avec sur soi de la trithérapie avec une pilule du lendemain. On se souvient des viols qui ont eu lieu place Tahrir en Égypte. Il y a des victimes journalistes qui ont témoigné. Dorothée O'Leary.
Oui, moi j'étais place Tahrir. On sent effectivement des tentatives d'agression, d'être touché, d'être un petit peu malmené. Mais déjà, faut rappeler que nous, on est journalistes de télévision, donc on est toujours deux, voire trois, voire quatre. C'est-à-dire il y a le caméraman, il y a le monteur, il y a l'interprète. Mm-hmm. Donc il y a des endroits où évidemment on ne sortirait pas toute seule. Alors après, oui, ce risque il existe partout. Faut pas être toute seule. Faut bien s'entourer. Moi, en Afrique, j'étais un petit peu agressée par un politicien important. Voilà.
Martine Laroche-Joubert.
Non, moi j'ai pas eu de problème de ce genre, mais c'est vrai qu'on est pas seul. Je veux dire voilà, et j'essaie de partir avec des caméramans un peu costauds quand même. Donc je n'ai pas eu ce problème. En effet, j'ai des consoeurs qui l'ont eu.
Ouais. C'est ça. Donc on peut être casqué, on peut porter un gilet pare-balles et il faut aussi se prémunir de ces nouvelles menaces. J'aurais aimé qu'on essaye d'évoquer en quelques mots ensemble tout l'écosystème de l'information qui a considérablement évolué autour de vous depuis que vous pratiquez ce métier, puisque même la nouvelle présidente de France Télévisions dit que France Télévisions n'échappera ni aux breaking news, ni à l'info continue, ni à l'immédiateté, puisqu'elle va créer une chaîne d'information. Est-ce que cette accélération de l'information transforme votre métier, Dorothée O'Leary?
Radicalement. C'est vrai qu'en 20 ans, ça a beaucoup changé. Je pense quand j'ai couvert le Rwanda, par exemple, le moment du génocide, on n'avait aucun moyen de diffusion, donc il fallait faire 10 heures de route et rentrer en Ouganda pour pouvoir ensuite monter le sujet avec la télévision locale et l'envoyer. Donc tous les 2, 3, 4 jours, on revenait et on faisait notre reportage. Maintenant, c'est pas l'instant M, mais c'est l'instant immédiat. Dès qu'on se pose quelque part, il faut être en position de direct, parfois dans l'heure qui suit, parce que les moyens sont très petits, les technologies très avancées, et on peut être en duplex, en direct, absolument partout. Donc ça va vite, c'est bien, mais c'est un peu frustrant pour nous, parce que ça, on perd parfois en profondeur, mais sur la durée, on peut reconstituer une information qui sera aussi bonne que celle qu'on donnait
Martine
avant.
Martine Laroche-Joubert, parce que vous êtes souvent sur des terrains où la situation est extrêmement complexe.
Oui, ça va vite, mais ça, au fond, ça me gêne pas vraiment que ça aille vite et de devoir travailler vite, etc. Mais j'aime aussi aller dans des endroits, alors par contre, où il est impossible de diffuser, où on ne peut absolument pas faire de
par
direct,
exemple,
en effet, comme la Syrie.
Oui.
Bon, quand je suis en Syrie, je ne peux pas avoir de position de direct, etc. Je suis vraiment undercover.
Pas de portable.
Pas de portable, il n'y a rien. Voilà, c'est assez...
Vous rapportez des images.
Oui, je rapporte des images. Ça serait beaucoup trop dangereux. De toute façon, c'est impossible de diffuser sur place.
On s'adapte.
J'aime bien les deux côtés. Puis
on s'adapte.
Voilà, on s'adapte au terrain. Voilà. Le seul avantage que je trouve, moi, aux breaking news et aux chaînes d'infos, c'est que nous, finalement, on peut faire des sujets plus longs. Dans le 20h, c'est vrai, pour se démarquer d'eux, on peut faire des sujets qui font 5, 6, 7 minutes. Tu penses, Dorothée, si jamais, il y a 10 ans, on avait dit,
mon sujet
fait 7 minutes, attendez, elle est folle, elle vole le boulot des autres, elle empiète sur le journal. Enfin,
voilà. Qu'aujourd'hui, c'est la marque de fabrique du 20h face à une chaîne télé d'info continue. Je vous remercie toutes les deux, Dorothée O'Leary, Martine Laroche-Joubert. Donc, on retrouve dans les différents rendez-vous d'information de France 2. Moi, je vous retrouve demain matin, 6h50. Pour l'instant télé, 9h40 pour votre émission média préférée. Et dans quelques minutes, deuxième édition de Un jour en France. Bonjour Bruno Duvic.
Bonjour Sonia. Au programme aujourd'hui, c'est ça que vous voulez savoir. Alors vous savez que depuis quelques jours, on peut circuler plus facilement en bus en France. Les bus Macron, on a testé les bus Macron. Et on voudrait savoir si vous prendriez le bus plutôt que le train, la voiture, le covoiturage. Pour nous joindre, c'est 01 45 24 7000 et Twitter, mot-clé, jour en France.
Et c'est Un jour en France et c'est tous les jours à 10h.